RFI, 8h30 à Moroni, 6h30 à Paris et Libreville. L'heure du journal. Bonjour Édouard Dupénoat.
Bonjour. Le premier tour des législatives aux Comores à la une de cette édition. Journée marquée par une faible affluence hier et de toute façon un boycott de nombreux opposants politiques. La CRC, le parti du président, affiche sa confiance. Trois jours de grève générale qui recommence aujourd'hui au Mozambique à l'appel de Venancio Mondlane. Cela alors que le Parlement doit tenir sa première session et que le président élu, mais vivement contesté, Daniel Chapeau, doit entrer en fonction après-demain. Une longue enquête aussi ce matin sur nos antennes dans le Puntland somalien, la discrète montée en puissance du groupe État islamique. Discrète parce que cette branche ne revendique ni attentat, ni conquête de territoire, mais elle forme des combattants et elle contribue aux finances mondiales du groupe terroriste. Un sprint de 10 jours pour les parlementaires du Gabon. Ils doivent examiner le projet de nouveau code électoral et en adopter une version commune entre députés et sénateurs. Et puis, les dents de la mer, version marocaine. C'était un gros lézard, 3 mètres de long, une mâchoire où l'on a guère envie de mettre la main. On vous parle dans 10 minutes de cette nouvelle découverte archéologique dans un bassin de phosphate du royaume chérifien. L'archipel des Comores compile ce matin les résultats de ces élections législatives. Premier tour hier pour renouveler les 33 sièges du Parlement, mais un scrutin marqué d'une part par le boycott de plusieurs opposants et d'autre part par une faible affluence dans les bureaux de vote, bien qu'il n'y ait encore pas de chiffres disponibles sur la participation. Cela n'empêche pas le camp présidentiel de se montrer confiant. En témoigne Abdallah Mzembaba, ce rassemblement festif auquel s'est invité le chef de l'État.
À Moroni, le chef de l'État s'est rendu hier soir au sud de la capitale où une fête improvisée était organisée. Devant les caméras et ses partisans, Azali Assoumani a estimé que son parti pouvait se réjouir d'avoir remporté les 2 sièges de la capitale face à plusieurs adversaires politiques. Hier soir, pas de réaction de l'opposition après ces propos du président, car du côté des opposants, dont une partie a boycotté le scrutin, les discours se concentrent sur les irrégularités qu'ils affirment avoir constatées. Ibrahim Mohamed Soulé, candidat indépendant à Moroni, Nord, a dénoncé le remplacement de certains membres des bureaux de vote et l'exclusion de plusieurs mandataires. Selon lui, cela a permis, je cite, de faciliter le bourrage systématique et massif des urnes. Et notre candidat de l'opposition à la Grande Comore, Hamidou Karihila, évoque quant à lui des magouilles, des actes de sabotage et même de vol dont lui et ses partisans ont été témoins. Les observateurs déployés ont constaté une faible affluence dans les bureaux de vote pour ces législatives, dont les résultats provisoires seront annoncés par la CENI au plus tard vendredi. Abdallah Mzembaba, Moroni, RFI.
Ainsi, les Comores ont été épargnés par Dikeledi. Ce n'est pas le cas de Madagascar. Le cyclone laisse derrière lui au moins 3 morts et 1700 sinistrés. Pour l'heure, Dikeledi est redevenue une tempête. Elle suit le canal du Mozambique vers le sud. Mais la grande île reste en alerte parce qu'elle pourrait frapper le sud de Madagascar demain ou après-demain. Le Mozambique, proprement dit, qui se réveille pour un lundi de grève. L'opposant Venancio Mondlane, revenu au pays, appelle à 72 heures de blocage massif pour protester encore contre les élections générales du 9 octobre. Et cela alors que le vainqueur déclaré, Daniel Chapeau, doit prendre le relais de Felipe Nyusi après-demain et que le Parlement doit tenir aujourd'hui sa session inaugurale. Les différentes protestations ont été matées dans le sang ces derniers mois. Plus de 300 morts selon les organisations civiles, dont près de la moitié lors des dernières vagues de protestations organisées à la fin du mois de décembre. Magali Lagrange.
Le 23 décembre, vers 20h, le quartier de Tchoupalé a retrouvé le calme. Eunice Albinou, enceinte de 7 mois, a faim. Accompagnée de sa fille, elle sort chercher à manger.
D'un coup est apparue une voiture, un 4x4 Mahindra. Et ils ont commencé à tirer, à pointer leurs armes droit sur les gens. Ça sortait de nulle part, les manifestations étaient déjà finies. On était devant chez nous, on n'avait nulle part où fuir.
Eunice et sa fille reçoivent chacune une balle dans le bras et l'épaule. Le quartier connaîtra plusieurs raids de ce type dans la soirée. Les hommes armés sont en civil. Simeon Carvalhou est touché à la cuisse alors qu'il rentre du travail.
J'ai vu 3 Toyota Hilux. Ils venaient de derrière. 2 étaient blanches, 1 grise. Ils ont tiré, puis 2 hommes sont descendus vêtus de robes musulmanes, armés. Ils ont commencé à tirer. La balle est rentrée là, a traversé, puis est ressortie.
Alexandre vit à Tchoupalé. Avec plusieurs jeunes, ils apportent un soutien aux victimes des violences policières et à leurs familles.
Nous vivons une situation très triste, c'est déplorable. C'est presque tout un pays qui est en train de perdre son futur. Parce que quand on tue un jeune, on tue le futur du pays. Les ordres viennent d'en haut. C'est le Frelimo au pouvoir qui envoie des assassins tuer le peuple, c'est très clair.
Selon la plateforme de la société civile Décide, la répression de la contestation a déjà fait près de 300 morts.
Magali Lagrange, il est 7h35 à Maputo. Même heure à Garoué, capitale de l'état du Puntland, en Somalie. Là où progresse, à bas bruit, le groupe État islamique. RFI vous propose ce matin une enquête et un éclairage sur cette filiale de l'EI qui intéressait relativement peu de monde il y a 10 ans, lorsqu'elle est née, et qui est devenue progressivement un centre logistique et financier de premier ordre. Les bons connaisseurs de cette mouvance terroriste estiment qu'elle participe aujourd'hui largement aux finances mondiales du groupe et qu'elle forme aussi des combattants venus de nombreux pays du monde, redistribué ensuite sur les différents théâtres d'opération. Florence Maurice a regardé dans l'ombre.
Ces combattants ne contrôlent pas de vastes territoires, ils ne mènent pas non plus d'attaques spectaculaires de grande ampleur, comme le font leurs rivaux, les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda. Mais depuis 2018, la branche somalienne du groupe État islamique abrite l'un des bureaux régionaux de l'organisation, baptisé Al-Qarar. À l'origine, son rôle est de coordonner les activités des filières du groupe en Afrique de l'Est, au Mozambique et dans l'Est de la RDC. Mais dans la pratique, son influence va bien au-delà, car selon les Nations Unies, cette branche somalienne est devenue la principale source de revenus de l'organisation État islamique dans le monde, capable de générer au moins 4 millions de dollars par an selon l'ONU et d'envoyer cet argent jusqu'en Afghanistan pour financer des opérations. Autre évolution importante, le groupe attire de plus en plus d'étrangers, plus de la moitié sur environ 500 combattants venus du Maroc, du Yémen, du Kenya ou de la Tanzanie pour recevoir une formation avant d'être redéployés dans leur pays. À la tête de ce bureau Al-Qarar, il y a un certain Abdulkadir Moumine, de plus en plus influent au sein de l'organisation État islamique. C'est ce qui a poussé les Américains à tenter en vain de l'éliminer au mois de mai dernier.
Florence Maurice, vous lirez aussi une version plus détaillée, plus complète de cette enquête sur notre site RFI.fr. La fin hier de la visite à Brazzaville du président angolais João Lourenço en tant que médiateur de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kigali, on le rappelle, qui soutient la rébellion du M23 actif dans l'est de la RDC. Selon un communiqué de Brazzaville, les présidents Sassou Nguesso et Lourenço ont exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats dans l'est du Congo, justement, malgré le cessez-le-feu signé au mois d'août. Les deux chefs d'État exhortent les parties au conflit à maintenir et à renforcer les initiatives favorables au dialogue. Les greffiers gabonais appelés aujourd'hui à une grève illimitée par leur syndicat national, le Sinagref, qui estime que les tractations en cours avec les autorités n'ont pas abouti. Ils demandent la réécriture du statut particulier de leur profession, mais leur mouvement porte aussi sur des questions de reclassement et de carte professionnelle. Le ministère de la Justice se dit surpris par la grève en estimant que des progrès sont en cours. Impensable de suspendre le travail en revanche pour les parlementaires gabonais. Ils jouent contre le chrono pour examiner dans le temps imparti le projet de nouveau code électoral. Ils n'ont que 10 jours pour passer en revue au pas de charge les quasi 400 articles de ce nouveau texte. Fondamental, puisqu'il va fixer les règles des prochaines élections et donc la fin de la transition militaire post-Ali Bongo. Yves-Laurent Goma.
Les députés ont engagé une véritable course contre la montre pour examiner et adopter le projet de 383 articles. Après l'ouverture de la session vendredi, l'Assemblée nationale a créé une commission ad hoc pour examiner le texte sur le fond. La commission a environ 5 jours car le projet doit être aussi envoyé au Sénat. Si les deux chambres l'adoptent en des termes divergents, une commission mixte parlementaire sera mise en place pour son adoption en des termes identiques. Ce travail doit être achevé le 20 janvier car le décret qui convoque la session parlementaire n'a prévu que 10 jours. Le texte reste confidentiel. Selon plusieurs sources, la caution pour être candidat à l'élection présidentielle passe de 10 à 30 millions de francs CFA. Les candidats à la députation doivent verser 1 million de francs CFA de caution contre 350 000 auparavant. Même si le ministère de l'Intérieur est l'organisateur exclusif de toutes les élections, le texte prévoit la création d'une commission nationale d'organisation et de coordination des élections. Il est également prévu une autorité de contrôle et de supervision des élections.
Yves-Laurent Goma, le Nigeria est-il en passe de faire un bond spectaculaire de 4 places pour redevenir cette année la première puissance économique africaine. Sans prétendre lire l'avenir, on peut en tout cas prendre le pari, puisque le pays va changer sa manière de calculer sa richesse, son produit intérieur brut. Les autorités annoncent qu'elles vont notamment intégrer autant que possible les activités informelles et illégales dans ce calcul, celles qui échappent justement à toute forme de contrôle et d'imposition, mais qui, malgré tout, restent des richesses, Nathanaël Vitran.
Cela dans un contexte où l'économie nigériane peine toujours à se remettre de la pandémie de Covid-19. Le pays a perdu en 2022 son statut de première puissance économique africaine et se situe désormais à la quatrième place du continent. Mais jusque-là, le calcul du PIB nigérian excluait certains secteurs ou les comptabilisait mal. L'activité des entreprises du numérique, celle des raffineries, des mines par exemple. Cette mise à jour, d'après ses promoteurs, vise donc à mieux refléter la réalité de l'économie du Nigeria, y compris en y intégrant la richesse créée par des acteurs économiques exerçant une activité illégale ou cachée. Un responsable du Bureau de statistiques nationales cite le cas de la prostitution dont les acteurs perçoivent des revenus, dit-il, parfois supérieurs à ceux du secteur formel. Une manière peut-être un peu artificielle de faire gonfler son PIB, mais qui a son importance. Ces ratios servent notamment pour mesurer le niveau d'endettement d'un pays et donc ses taux d'intérêt.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Il y a enfin 3000 kilomètres, peu ou prou, entre le Loch Ness et Meknès, mais le monstre dont on vous parle enfin est bien réel, ou plutôt il l'était, le Carinodens acrodon pour son petit nom latin, nouvelle espèce de mosasaure durophage, soit un bon gros lézard marin. Des scientifiques viennent d'identifier formellement ce fossile découvert dans l'un des très nombreux bassins de phosphate que compte le Maroc. On doit cette découverte à des chercheurs de l'université de Bath et le récit à François Humfer-Kataji.
Le Maroc est le deuxième producteur mondial de phosphate. Le pays regorge de gisements. Ses lieux d'extraction sont aussi un terrain d'exception pour les paléontologues qui cherchent toujours à en savoir plus sur la vie sur Terre il y a 66 millions d'années et avant, lorsque les derniers dinosaures ont disparu de la surface du globe. Dans la dernière décennie, la mine à ciel ouvert de Sidi Chenan, à 250 km au sud de la capitale Rabat, a fourni de nombreux fossiles d'espèces animales qui peuplaient les mers au Crétacé supérieur. Et parfois, des découvertes plus impressionnantes sont réalisées. Le paléontologue Nicholas Langridge de l'université de Bath en Angleterre a détecté la présence d'une nouvelle espèce de lézard marin mesurant de 2 à 3 mètres de long, caractérisée par ses dents basses et rectangulaires. C'est la deuxième découverte de ce genre en moins de 2 ans. Au-delà des reptiles marins, les paléontologues espèrent aussi retrouver des traces de dinosaures en étudiant les bassins de phosphate marocains. Les scientifiques estiment que l'Afrique comptait probablement beaucoup plus d'espèces de dinosaures que l'Amérique du Nord, et pourtant les découvertes ont été moins nombreuses sur le continent. L'étude des vestiges de fonds marins pourrait dévoiler quelques secrets. Des os de dinosaures ont déjà été retrouvés dans les sédiments marins d'Afrique du Nord. François Humfer-Kataji, Casablanca, RFI.
À Casablanca, il est 6h43, même heure à Paris. RFI Matin continue, c'est avec vous Andréane Mélard.
Merci Edouard Dupénoaté. À tout à l'heure, RFI Matin, dans 20 minutes, un nouveau point sur l'actualité du monde à la une, les États-Unis et les incendies toujours.